Il est midi 31 sur France Culture. C'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Deux jours après les manifestations contre la réforme du Code du Travail, le Premier ministre Édouard Philippe promet ce matin une nouvelle phase de transformation. La refonte de l'assurance chômage et de la formation professionnelle, compte rendu de Sophie Delpont. Et Emmanuel Macron va recevoir demain les artisans du succès parisien pour l'organisation à Paris des Jeux Olympiques dans 7 ans. La quasi-totalité des journaux y voit une belle victoire et un grand défi, commentaire d'Anne-Laure Chouin. Après le rejet hier par Jean-Claude Juncker, des propositions françaises qui visent à doter la zone euro d'un budget et d'un parlement séparés de ceux de l'Union européenne, le commissaire Pierre Moscovici assure que les positions de Paris et Bruxelles ne sont pas en fait incompatibles. Explication avec Stéphane Robert. La Russie lance aux portes de l'Union européenne de vastes manœuvres militaires conjointes avec le Bélarus. Certains membres de l'OTAN y voient une démonstration de force, mais Moscou les présente comme purement défensives. L'invité de la séquence interview, notre confrère Jean-Michel Beza, journaliste au Monde. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Utopie réaliste avec des S, ce titre sous forme d'oxymore ne manquera pas de vous interroger, voire de vous intriguer. Si vous voulez en savoir plus, vous restez avec nous. On retrouvera l'auteur de cet essai, l'historien et journaliste Rutger Bregman, avec nous à partir de 12h55 et peut-être même un peu avant dans votre journal Antoine Mercier.
Avant de revenir sur les déclarations du Premier ministre concernant les perspectives sociales, un mot de retour sur cet événement d'hier qui était la nomination de Paris pour les Jeux Olympiques, de 2024. Emmanuel Macron va recevoir demain les artisans de ce succès parisien. C'est dans 7 ans maintenant. Il y a des festivités qui seront prévues aussi le même jour à l'Hôtel de Ville. Et la quasi-totalité des journaux, des commentateurs ce matin y voient une belle victoire, un grand défi. Un défi qui va surtout consister à faire de l'opération, que l'opération soit profitable économiquement, Anne-Laure Chouin, ce qui n'est jamais gagné d'avance.
En effet, s'il est très difficile de calculer le coût exact des bénéfices économiques des Jeux, ce qu'on sait très bien en revanche, c'est que tous les JO depuis leur création ont toujours dépassé leur budget prévisionnel, avec en moyenne 156% de dépassement, 176% pour les Jeux d'été. Pour Paris, le budget annoncé et vendu au CIO est de 6,6 milliards d'euros, mais les organisateurs promettent que cette fois-ci, il n'y aura pas de dépassement. Et pour cause, disent-ils, la capitale possède 90% des infrastructures nécessaires. Sauf que ces dépassements de budget ont toujours eu lieu hors infrastructures. Ce sont plutôt des dépenses liées à la sécurité ou à la nécessité de livrer les travaux dans des délais très stricts. Et évidemment, à une sous-estimation du budget initial qui permet bien souvent de remporter la mise. À titre d'exemple, les JO de Tokyo, qui auront lieu en 2020, ont été estimés à 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, les organisateurs japonais projettent plutôt 17 milliards. Premier défi donc des Jeux de Paris, respecter la trajectoire financière et la promesse de Jeux solidaires, économiques et écologiques. De ce côté-là, tous les efforts seront faits, promettent les organisateurs. Une norme ISO a même été créée pour l'occasion. Du côté des infrastructures, les plus importantes seront un stade nautique doté d'une piscine olympique qui sera construite en face du Stade de France et un village olympique dans le quartier de Saint-Denis-Pleyel, le département le plus jeune et le plus pauvre de France, devrait sur le papier sortir grand gagnant de l'organisation de ces Jeux. Il faudra voir à long terme si les logements olympiques pourront se transformer en logements pérennes et si ce stade nautique prévu ne deviendra pas un éléphant blanc, expression qui désigne une infrastructure qui a nécessité beaucoup d'argent public notamment et qui n'est pas ou peu utilisée. Enfin, il y a les infrastructures de transport, celles du Grand Paris notamment, qui devraient bénéficier de l'événement pour avoir un coup d'accélérateur et dont le coût n'est pas inclus, lui, dans le budget olympique.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Justement, c'est ce qui satisfait ce matin le maire de Saint-Denis, Laurent Russier, qui estime que le milliard d'euros d'investissement prévu dans la commune, dans sa commune, va créer 1000 emplois pérennes pour ses administrés.
Je prends un exemple, on a le Grand Paris Express, ces lignes de métro qui vont irriguer notamment la Seine-Saint-Denis. Ouais. On va gagner des 5 à 6 ans sur le Grand Paris Express. Qui peut dire que la Seine-Saint-Denis, notamment, n'a pas besoin de, pour réduire les inégalités marquantes, n'a pas besoin de ces investissements qui auraient dû se faire. Il y a quelque chose qui est inquantifiable, c'est quand demain, nous, nos enfants et nos clubs sportifs auront une piscine supplémentaire. Ça, c'est l'inquantifiable. Mais en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis notoirement, on est la ville, la grande ville la plus jeune de France et on est en sous-équipement sportif chronique. Après, il y a bien sûr cette image de fierté, enfin, l'image qu'on a sur la ville. Saint-Denis, c'est une ville magnifique, une des rares villes historiques aussi proches de Paris. Nous aussi, on espère avoir un vrai impact touristique et qu'on ait un éclairage enfin qui ne soit pas que du fait divers et souvent partial et un peu exagéré, mais qui soit un éclairage de pépites. On a des jeunes, 24%, un quart de la population a fait sa rentrée scolaire. C'est inimaginable dans bien d'autres villes et il faut que cette jeunesse, on sache lui faire confiance et on l'accompagne, notamment en termes d'emploi. Ce sera fondamental.
Laurent Russier, donc maire de Saint-Denis. Bonjour Jean-Michel Beuzat.
Bonjour.
Journaliste au Monde. Est-ce qu'il est possible d'évaluer à l'avance le bilan qu'on pourra faire de ces jeux entre les coûts et les bénéfices attendus?
Je crois que c'est très difficile. Vous avez à peu près tout dit hein, sur la dimension financière de ces jeux, mais je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est aussi une affaire de notoriété et c'est aussi la capacité d'un pays à organiser une grande manifestation planétaire, alors évidemment en restant dans les clous financiers, mais aussi en assurant par exemple la sécurité. On l'avait bien vu avec l'euro, ça s'est bien passé en France, ça s'est très bien passé. Et ça, je pense que c'est très important si on peut réitérer cela avec les JO de 2024.
2024, voilà. Merci beaucoup Jean-Michel Beuzat. On vous retrouve pour la séquence interview. Deux jours après les manifestations contre la réforme du Code du travail, le Premier ministre Édouard Philippe promettait ce matin une nouvelle phase de transformation, selon l'expression maintenant utilisée, transformation encore plus essentielle pour s'attaquer au chômage de masse. C'est la refonte de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Le chef du gouvernement s'exprimait devant l'Association des journalistes de l'information sociale et il a notamment explicité la raison pour laquelle il utilisait dorénavant ce terme de transformation pour caractériser sa politique plutôt que celui de réforme. Citant l'historien Marc Bloch, il assure que le cours des événements est réglé en dernière analyse par la psychologie des hommes et que pour cette raison, il fallait, pour transformer, introduire un grain de levain nouveau dans la mentalité commune. Il assure pour cela avoir besoin des journalistes. Sophie Delpe, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Vous avez assisté ce matin à l'exposé donc du Premier ministre, qui est assez riche d'enseignements, on le voit sur le plan théorique.
Oui, pour mettre en œuvre cette transformation, le mot est prononcé à 10 reprises, et appliquer le programme d'Emmanuel Macron, il faut donc changer les mentalités de ces Français qui détestent les réformes, comme l'avait déclaré le chef de l'État cet été. Alors pour convaincre les esprits, Édouard Philippe a lancé un appel ce matin directement aux médias.
Et sur ce projet, nous avons besoin de vous. Au fond, peu importe l'opinion que vous pouvez avoir, quoi qu'il arrive, nous avons besoin de nourrir ce débat, de l'expliquer dans le détail et de le mettre en perspective, de s'appuyer sur des chiffres et de le mettre dans la profondeur du temps, de faire état de ce qui se passe ailleurs, de ce qui ne marche plus ou de ce qui marche, de ce qui se transforme, bref, d'étayer un débat public où des opinions légitimes s'affrontent, comme c'est la règle et comme c'est la nécessité dans une démocratie.
Une leçon de journalisme, hein, décidément, dans l'air du temps. Le Premier ministre revendique une cohérence dans le projet d'Emmanuel Macron qui va lancer maintenant la réforme de l'assurance chômage pour protéger davantage après avoir, selon son expression, libéré le travail, non pas libéralisé. Le chef du gouvernement insiste sur ce mot, faisant sourire Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, assis au deuxième rang. Cette transformation qualifiée par l'opposition de coup d'état social est la seule issue pour éviter une démocratie fossilisée, selon les mots d'Édouard Philippe.
Mais tout le monde sait ici, tout le monde sait que dans l'état d'angoisse et de crispation, souvent décrit dans la société française, ne pas permettre à une action publique d'être mise en œuvre poserait des sujets que nous aurions à traiter plus tard et peut-être de façon plus cruelle.
Des mots prononcés qui n'étaient pas présents dans la version écrite du discours. Et cette menace de chaos, cette dramatisation, met en avant que la réussite d'Emmanuel Macron est le seul rempart contre les extrêmes.
Sophie Delpont, merci beaucoup. Un tout petit mot là-dessus peut-être, Jean-Michel Beuzat, parce que quand un Premier ministre dit aux journalistes « j'ai besoin de vous », c'est un petit peu embarrassant quand même.
Oui, c'est embarrassant et c'est surtout un peu contradictoire avec l'attitude d'Emmanuel Macron. Je ne parle pas d'Édouard Philippe, mais d'Emmanuel Macron depuis son élection en mai. C'est-à-dire qu'il y a une une forme de rejet des journalistes de la part du président de la République. Et là, on voit un Premier ministre qui demande aux journalistes, finalement, non pas d'accompagner la réforme, mais au moins, derrière, il y a l'idée qu'il faut qu'ils soient quand même bienveillants.
Les acteurs de la transformation, fameuse transformation.
Voilà.
Merci beaucoup. On passe à cette conférence de presse du Secours Populaire à l'occasion de la publication du 11e baromètre sur la pauvreté en France. Il y a près de 37% de la population qui a déjà fait l'expérience de la pauvreté et il y a 20% qui a cru être sur le point de connaître une telle situation. L'association y voit le signe que la pauvreté s'enracine notamment chez les seniors. Par ailleurs, il y a aussi une très large majorité des sondés qui considèrent que la génération de leurs enfants risque davantage d'être confrontée à une situation de pauvreté que leur propre génération. On va demander à son avis peut-être à l'invité de la dernière partie de la grande table, qui est un confrère également hollandais, Rutger Bregman, bonjour.
Bonjour.
Alors la pauvreté, on le voit à nouveau par ce baromètre, phénomène qui continue d'exister dans les pays riches, notamment, et qui a tendance même à se développer. En tout cas, la peur de la pauvreté se développe aussi. C'est assez curieux, parce que quand on lit votre livre, on a l'impression qu'il y aurait une solution qui serait là, toute à disposition et qu'on n'utilise pas.
Absolutely. I think it's pretty crazy.
Vous avez raison. D'ailleurs, je pense qu'il est totalement absurde qu'on ait encore des millions de gens qui vivent dans la pauvreté alors que nous sommes des nations affluentes, riches. C'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre, c'est que l'éradication de la pauvreté, en fait, c'est un investissement parfaitement rentable, car la pauvreté, c'est elle qui nous coûte cher.
Voilà, simplement, il faut faire les comptes complètement. C'est ça que vous montrez dans votre livre. C'est qu'il faut d'une part avoir évidemment le coût, très important, il ne faut pas le négliger, et en même temps, ça dépend comment on voit aussi les revenus possibles, ou en tout cas les non-dépenses qui sont effectuées du fait qu'on introduit ce revenu universel.
Oui, je crois qu'il faut vraiment s'intéresser aux bénéfices à long terme dès lors qu'il s'agit de lutter contre la pauvreté. De nombreuses expériences nous ont montré que les coûts de santé sont à la baisse, la criminalité également. Les enfants des gens pauvres vont mieux marcher à l'école. Donc c'est vraiment une bonne solution et n'importe quel pays est mieux sans pauvreté, c'est l'évidence.
Voilà, de tout cela, évidemment, c'est le centre de votre livre. On reparle Rutger Bregman dans la dernière partie de la Grande Table. Je rappelle le titre de votre livre, Utopie réaliste, publié au Seuil. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, déclare que le gouvernement ne va pas tolérer que les transporteurs routiers bloquent la France. Lors du prochain mouvement qui a été annoncé contre la réforme du Code du travail, les routiers de la CGT et de Force ouvrière ont appelé hier à une grève reconductible à partir du 25 septembre pour, disent-ils, faire plier le gouvernement sur la réforme du Code du travail, notamment en bloquant les dépôts de carburant. Il y a encore plus de 3000 bacheliers qui sont inscrits sur la plateforme admission post-bac, l'APB, essentiellement issus de filières techniques et professionnelles et qui sont donc toujours sans affectation pour une université. C'est un chiffre donné par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui assure toutefois qu'ils auront tous une proposition. Ce sujet-là, des admissions post-bac, était au cœur de la rentrée du syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN. Hakim Kasmi.
Oui, effectivement, Antoine, 3000 élèves sans affectation, c'est un chiffre qui est en fait très loin des réalités, car en fait, il y aura beaucoup d'enfants qui vont avoir recours soit à l'enseignement privé, soit, eh bien, une année de césure, partir à l'étranger ou bien travailler. Quant aux plus chanceux, eh bien, eux, ils pourront partir à l'université, mais pas forcément dans la filière qu'ils avaient choisie. Ce matin, Frédéric Vidal a indiqué, eh bien, la fin d'APB, système admission post-bac, mais le syndicat, le SNPDEN, se pose cette question. Quel système mettre en place, d'autant que les orientations doivent se faire dès le mois de décembre? Une question sans réponse, qui inquiète beaucoup les chefs d'établissement. De leur côté, eh bien, ces chefs d'établissement, ils demandent une sélection à l'entrée de l'université, une sélection sur dossier, ce qui pour l'instant, d'un point de vue légal et juridique, est interdit. Et ils demandent également plus de places à l'université, ce qui paraît bien compliqué quand on voit aujourd'hui comment les amphithéâtres sont remplis, avec plus de 40 000 élèves encore à l'université cette année. Toujours sur la question des moyens, eh bien, un établissement sur deux serait avec de gros problèmes, de personnel, hein, puisqu'il y aurait beaucoup de personnes qui ne seraient pas affectées. Notamment avec la baisse des 23 000 contrats aidés, cela pose beaucoup de difficultés, notamment en zone d'éducation prioritaire. On le sait, Antoine, eh bien, le besoin d'adultes est très important pour l'accompagnement des enfants, ce qui posera par exemple des problèmes dans les CDI ou encore les cantines. Enfin, sur la polémique qui a rebondi il y a 24 heures sur la fin du téléphone portable au collège, demandé par le ministre, mais aussi par M. Macron, eh bien, là aussi, hein, les chefs d'établissement se posent beaucoup de questions, car d'un point de vue légal, cela est interdit, eh bien, d'interdire, pourrais-je dire, le téléphone portable au collège. Cela pose, on le sait, des problèmes de discipline, de concentration. Notez que certains pays, eh bien, l'ont déjà fait, à savoir le Danemark, mais aussi la ville de Palo Alto, en Californie. Palo Alto, qui, je vous le rappelle, est la ville des nouvelles technologies.
Hakim Kasmi, merci beaucoup. Vous étiez donc en direct avec nous, avec Benjamin Thiot. Et on reparle de la réforme de l'Union européenne. La question est redevenue d'actualité depuis que le président français a lancé à Athènes un appel à refonder l'Europe, notamment sur des réformes institutionnelles, comme la création d'un Parlement de la zone euro. Hier, devant le Parlement de Strasbourg, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, rejetait ces propositions qui visaient à doter donc la zone euro d'un budget, d'un Parlement séparé de ceux de l'Union européenne, qui reviendrait, selon M. Juncker, à créer, à construire une Europe à plusieurs vitesses. L'Europe doit respirer, dit-il, avec ses deux poumons, celui de l'Est avec celui de l'Ouest, sinon notre continent s'essouffle. Et ce matin, donc, le commissaire européen Pierre Moscovici a voulu jouer les conciliateurs. Selon lui, cette position du président français, qui veut donc un Parlement séparé pour la zone euro, et celle du président de la Commission sont absolument compatibles. Pierre Moscovici.
Ce sont des visions qui sont absolument compatibles. Quand Emmanuel Macron parle d'un ministre des Finances de la zone euro, Jean-Claude Juncker explique comment il faut le faire. Quand Emmanuel Macron parle d'un budget de la zone euro, Jean-Claude Juncker explique que oui, dans le cadre du budget européen. Et s'agissant du Parlement de la zone euro, c'est dans le cadre du Parlement européen, je crois, qu'il doit s'organiser. Et d'ailleurs, il n'a jamais été question, me semble-t-il, qu'il en soit autrement. Jean-Claude Juncker et Emmanuel Macron ont des visions parfaitement compatibles. Il est aussi logique qu'ayant des rôles différents, des expériences différentes, chacun donne ses propositions. Dès lors qu'il va y avoir débat, eh bien, ça suppose qu'il y ait plusieurs voix.
Voilà donc ce que vous disait Pierre Moscovici ce matin. Stéphane Robert, bonjour. Sous quel angle faut-il regarder ce sujet pour voir la compatibilité entre les deux points de vue? Peut-être que l'expression qu'a utilisée à deux reprises Pierre Moscovici, être dans le cadre, peut nous mettre sur la piste.
Oui, vous venez de l'entendre au dire de Pierre Moscovici, il n'y aurait que des nuances à la marge entre la vision européenne et les propositions d'Emmanuel Macron et celle du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Et c'est ce qu'on verra quand on reparlera plus sérieusement de tout ça, a ajouté Moscovici. On a là un langage mi-techno, mi-diplomatique qui dit exactement l'inverse de ce qu'il signifie en réalité. Car le discours de Jean-Claude Juncker hier sur l'état de l'Union est en partie une réponse au discours qu'Emmanuel Macron a tenu à Athènes il y a quelques jours. Et c'est en quelque sorte un recadrage auquel s'est livré le président de la Commission européenne vis-à-vis du président français. Et vous avez raison, le mot-clé ou l'expression clé, c'est « dans le cadre de ». À Athènes, Emmanuel Macron a déclaré vouloir refonder l'Europe en donnant les moyens d'avancer à ceux qui veulent avancer ensemble. Par exemple, a dit Macron, en créant un Parlement de la zone euro. Très bien, lui répond Juncker, mais il existe déjà, c'est le Parlement européen. On peut certes en créer un autre, ajoute-t-il, mais dans le cadre du Parlement européen. Macron a également déclaré vouloir créer un poste de ministre des Finances de la zone euro, responsable devant le nouveau Parlement de la zone euro. Il s'agit là en quelque sorte de constituer l'embryon d'un gouvernement européen. Très bien, lui a encore répondu Jean-Claude Juncker, mais ça existe déjà, c'est le président de l'Eurogroupe, et donc un ministre des Finances, d'accord, mais dans le cadre de l'Eurogroupe. C'est donc bel et bien un recadrage que s'est livré Juncker vis-à-vis de Macron, face à la volonté affichée du jeune président français de faire bouger les choses, de changer les règles. Juncker a rappelé qu'il y avait un cadre, les traités européens, et qu'ils ne sont pas renégociables. Bref, c'est circulé, il n'y a rien à changer ni rien à voir. Et vous verrez, a encore ajouté Pierre Moscovici ce matin, après les élections allemandes, quand on prendra un macroscope, on verra que c'est bien dans ce cadre-là que s'inscrit Emmanuel Macron.
Voilà, on prendra donc le macroscope de Pierre Moscovici pour regarder cela. Merci beaucoup Stéphane Robert. La Russie a lancé ce matin aux portes de l'Union européenne de vastes manœuvres militaires conjointes avec le Bélarus. Moscou les présente comme purement défensives. Certains membres de l'OTAN y voient toutefois une démonstration de force. Exercice qui implique, selon Moscou, près de 12 700 soldats pendant une semaine le long de cette frontière, donc avec la Lituanie et la Pologne. Le chef d'état-major russe assure que ces manœuvres sont planifiées de longue date, qu'elles ne sont dirigées envers aucun pays en particulier. Certains pays toutefois, comme la Lituanie ou l'Estonie, doutent des chiffres qui sont avancés par les Russes et évoquent plus de 100 000 soldats qui seraient mobilisés donc du 14 au 20 septembre. 12h50, 1h10, retour vers notre invité Jean-Michel Beuzat, journaliste au Monde, interviewé par Jean-Marc Chardon.
Jean-Michel Beuzat, bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'une enquête sur le Made in France aux éditions First. Alors, nous parlons souverain, justement, les assises du produire en France. Et derrière, c'est la question du Made in France qui est posée. Alors, la renaissance actuelle du Made in France, elle coïncide avec la dépression économique qui s'est creusée après la crise de 2008, avez-vous écrit. Ça fait tout de même bientôt 10 ans. Aujourd'hui, la croissance, elle a repris. On vient d'apprendre que l'OCDE se montre elle-même plus optimiste sur la croissance en France. Elle a repris. Alors, est-ce que le patriotisme économique ne se joue jouerait pas plutôt à l'échelle européenne?
Oui, je pense que il faut pas avoir une vision du Made in France, une vision protectionniste, refermée sur les frontières. Il faut raisonner au niveau européen. Mais un exemple tout bête là qui est tombé ces derniers jours autour du rachat par les Italiens du chantier naval de STX, les chantiers de Saint-Nazaire, montre que le patriotisme économique se vit encore en France de manière trop hexagonale. Hein. Alors peut-être qu'on va en sortir par le haut en créant un grand groupe naval franco-italien qui construira à la fois des paquebots et des navires militaires. On n'en est pas là, ce sont des pistes qui sont explorées. Mais la réaction du gouvernement français, comme celle d'ailleurs il y a 10 ans quand il y avait une tentative de rachat de Danone par PepsiCo, quand il y avait une tentative de rachat de Suez par le groupe italien Enel, tout cela avait bien montré que les Français n'étaient pas prêts à laisser tomber leurs fleurons.
Pour relancer un peu la question, comment est-ce qu'on peut imaginer de promouvoir un Made in France à partir du moment où la France appartient à une zone de libre-échange européenne qui elle-même n'a pas du tout de tarifs extérieurs communs pour protéger quoi que ce soit? Donc ça, oui, c'est quand même très paradoxal.
C'est très paradoxal. Et d'ailleurs, les instances européennes sont très réticentes à l'idée que chaque pays puisse faire un marquage obligatoire de ses produits.
C'est pour ça qu'on mettre Made in UE, par exemple.
Oui, on peut mettre Made in France, ouais. Bien sûr, c'est pas interdit, mais on sent bien que la philosophie de l'Union européenne, de la Commission, c'est une philosophie libre-échangiste et le libre-échange s'accommode parfois pas très bien du Made in France tel qu'il est conçu, en tout cas tel qu'il est conçu par certains, c'est-à-dire dans une vision de protection un peu étroite de nos productions manufacturières.
Jean-Marc Chardon.
Alors Jean-Michel Bezat, pour promouvoir le Made in France, il y a aussi l'État actionnaire et ce fonds d'innovation à 10 milliards que veut créer Emmanuel Macron. C'est-à-dire que l'État abonderait par des cessions de participation dans des entreprises publiques où il est présent. Est-ce que ça vous paraît crédible, cette démarche-là?
Oui, tout à fait. Là, on n'est plus dans le Made in France. On est dans la gestion des participations de l'État, la bonne gestion de l'argent public. On sait que l'État a plus de 100 milliards d'euros dans des grandes entreprises comme EDF, Safran, Orange, Renault. Et le fait de vendre, en quelque sorte, ces bijoux de famille pour les verser dans un fonds qui sert à trouver les produits de demain, à porter l'innovation, je pense que c'est une très bonne idée. Après, il faudra que ça s'articule aussi avec ce que fait BPI France, avec ce que fait la Caisse des dépôts et un certain nombre d'acteurs qui sont déjà présents. Mais je pense que c'est une bonne démarche, oui.
Et vous le disiez, on n'est plus effectivement dans le Made in France en tant que tel, mais c'est le patriotisme économique qui, lui, est effectivement donc à la charge de l'État. Comment fait l'État pour promouvoir?
Oui, l'État aurait plusieurs manières de promouvoir le manifeste. Je pense que la vraie question, c'est de donner aux entreprises les capacités de lutter contre la concurrence internationale. C'est-à-dire, en gros, compétitivité, innovation. Si vous n'avez pas ces deux choses-là, vos produits Made in France ne se vendront pas, ni en France, ni à l'étranger.
Jean-Michel Bezat, est-ce que vous avez des objections à faire sur la mesure qui consisterait à donner à tout le monde un revenu de base?
C'est très compliqué. Benoît Hamon en avait fait le cœur de sa campagne. Ça n'a pas marché parce que au départ, il était parti sur un projet extrêmement vaste dont on ne savait pas très bien comment il le financerait. Ensuite, il a réduit la voilure en expliquant que ça se ferait par étapes. Je crois que l'idée est bonne, très intéressante, mais qu'elle était prématurée et qu'elle a et qu'elle n'est pas en cohérence avec l'idée qu'il faut travailler davantage pour produire de la richesse. Donc je pense que les Français ne sont pas encore mûrs.
Voilà, écoutez, c'est pas vraiment ce que pense peut-être Rutger Bregman, qui est notre invité dans la dernière partie, dans son livre Utopie réaliste. Il va nous en parler. Merci en tout cas, Jean-Michel Bezat. d'être venu dans cette édition. Un tout petit mot du temps, généralement frais et humide, il y aura davantage de soleil près de la Méditerranée, des températures qui sont en baisse partout, 12 à 15 degrés près des frontières du Nord, de 16 à 20 en général quand même, de 23 à 28 près de la Méditerranée. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, le prochain journal est à 18h avec Aurélie Tiffer.